La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver. Nous poursuivons ensemble notre série d'émissions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité. En effet, pour la première fois de l'histoire des Jeux, la cérémonie d'ouverture sera ouverte à tous, le long de 6 km sur la Seine, et des épreuves se dérouleront sur plusieurs sites. 200 délégations étrangères seront présentes, 10 500 athlètes et 12 millions de visiteurs attendus, autant que la population de l'Île-de-France. Vous vous demandez certainement comment notre pays se prépare à accueillir cet événement majeur. Pour répondre à votre question, j'ai le plaisir de recevoir Mme Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Bonjour Madame.
Bonjour.
Madame la porte-parole, une première question très ouverte. Comment le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer appréhende-t-il les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024? Quel sens le ministère donne-t-il à l'organisation de cet événement majeur?
Alors pour tout vous dire, c'est pour nous à la fois une échéance extrêmement importante qui se rapproche. Hein, on est en dessous des 24 mois, donc un événement souvent on commence plusieurs années avant à le préparer et au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, les réunions se densifient, les choses deviennent plus concrètes au fur et à mesure. Donc c'est une échéance importante et c'est un beau défi qu'on a envie de relever, qu'on va relever et à la fois pour diminuer toutes les vulnérabilités, faire en sorte qu'on soit le mieux préparé possible, le mieux coordonné possible. Et en même temps, faire en sorte que ce soit une grande fête nationale, une grande fête internationale. Et donc, on est très fiers pour notre pays d'avoir ce niveau d'ambition, de recevoir en toute sécurité ce grand événement, que tout se passe bien et qu'en même temps, ce soit un moment de fête, d'émotion, et qu'il en reste aussi quelque chose après tout cela. Et il y a un certain nombre de structures qu'on est en train de créer qui vont perdurer bien après les JO 2024. Donc voilà, c'est un mélange d'émotion, de fierté, de travail. Et un peu comme les sportifs, on s'entraîne beaucoup pour être au top quand ça arrivera.
Alors, pour nous, peut-être parler cybersécurité, car cette question, effectivement, se pose depuis environ une dizaine d'années. En 2012, lors de la cérémonie des Jeux d'ouverture à Londres, une attaque majeure a frappé, effectivement, cette organisation. Le nombre de cyberattaques, quant à lui, s'agissant des Jeux d'été à Tokyo, a été estimé à 4,4 milliards d'attaques. Donc la cybersécurité est, j'imagine, un axe de réparation majeur pour le ministère. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Alors oui, clairement, la cybersécurité, c'est un axe majeur de travail. Je pense qu'on va évaluer et évoquer ensemble toutes les menaces. On va parler sans doute du terrorisme, du flux de personnes, des questions d'ordre public, etc. Mais le cyber, les attaques cyber, c'est pour nous une préoccupation constante qui n'est pas nouvelle en fait. Hein. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille sur ces sujets. Des attaques cyber qui peuvent toucher les particuliers, les PME, les grandes entreprises, mais aussi les institutions publiques. On l'a vu récemment avec notamment au moment du Covid, les centres hospitaliers qui ont parfois été touchés. Donc nous, par rapport à tout cela, au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, on se prépare. On se prépare, j'allais dire, en termes d'innovation, en termes de structure, et on met de l'argent sur la table. La nouvelle loi de programmation qui est en cours d'examen prévoit que la moitié des 15 milliards d'investissement soit dédié à tout ce qui est cyber. Donc on a vraiment pris en compte les choses et on est prêt à mettre de l'argent pour se moderniser, se réorganiser aussi avec des forces qui vraiment travaillent ensemble. Alors vous l'avez dit, que ce soit à Rio en 2016, à Tokyo plus récemment, il y a eu un très grand nombre de cyberattaques, plus de 4 milliards d'incidents, c'est énorme. Donc on sait ce qui nous attend en termes de menaces, d'attaques qui peuvent toucher les billetteries, les sites d'information, qui peuvent vraiment mettre en danger notre organisation. Donc par rapport à tout cela, on revoit notre organisation, on se solidifie en termes de réponse et puis on travaille aussi à des scénarios de crise qui nous permettront de réagir si tel ou tel site d'importance vitale était touché. Donc on est à la fois sur de la protection technologique, de la protection humaine, mais aussi des plans stratégiques et tout cela dans un agenda qu'on connaît. Il faut que dans 2 ans, on soit le plus prêt possible grâce aux exercices et grâce à la mobilisation de l'ensemble des préfectures et de l'ensemble des services de sécurité. Donc on est pleinement mobilisé sur ces questions.
Alors justement, s'agissant de nouvelles technologies, en 2014, aux Jeux d'hiver à Sochi, aucun incident de cybersécurité majeur n'a été relevé. Avant les Jeux, le FSB, qui est le service fédéral de sécurité, annonçait, je cite, « aucune communication de la part des concurrents comme des spectateurs n'échappe à la surveillance ». En s'appuyant sur un système d'interception des communications particulièrement renforcé pour l'occasion. C'était Sochi. La France est-elle dotée également d'innovations technologiques majeures?
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on sera la cible de tentatives d'attaque informatique. Ça ne fait à peu près aucun doute. Et pour cela, il faut qu'on n'ait aucune faille humaine, aucune faille dans nos logiciels et dans tout l'écosystème finalement cyber pour notre ministère. Alors, l'enjeu, c'est pour nous d'être, de garantir vraiment un usage responsable des technologies de sécurité et de faire tout ça avec efficacité, mais dans le cadre de la loi, dans le cadre du respect de nos libertés individuelles. Donc, en tout état de cause, les innovations techniques qui sont actuellement testées pourront être utilisées que si elles sont utilisables à droit constant, qu'elles ont prouvé leur efficacité, qu'elles peuvent être déployées dans le temps. Et on a une direction au ministère de l'Intérieur qui suit tout cela. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'aura pas d'expérimentation particulière au moment des Jeux Olympiques. Tout ce qui aura été testé, validé et encadré légalement auparavant sera utilisé et ce qui ne l'est pas ne sera pas utilisé. Donc on n'a pas dans l'objectif de faire des JO un terrain d'expérimentation, mais bien d'utiliser avec le plus d'efficacité les technologies qu'on a à notre main.
Vous l'avez dit très justement, des cyberattaques de tout ordre, je dirais, pendant le Covid, les hôpitaux, mais les collectivités territoriales, bien entendu, ne sont pas épargnées. Elles sont particulièrement sensibilisées et à juste titre, évidemment, sur toutes les questions de sécurité physique des personnes, aux problématiques relatives à l'accueil du public, aux mouvements de foule, peut-être moins aux questions de cybersécurité. Or, elles vont jouer un rôle crucial, notamment celles qui vont accueillir des délégations sur leur territoire. Quels conseils pouvez-vous leur apporter ?
Alors c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on sensibilise les entreprises avant tout, mais aussi les institutions publiques. Et c'est vrai que des fois, le cyber est un peu mis de côté parce que dans l'esprit de certains, c'est encore un sujet extrêmement technique. Alors le sujet est technique, mais les solutions peuvent l'être un petit peu moins et sont à portée de main de toutes les institutions. Et donc chacun, finalement, à l'échelle d'un territoire, peut travailler main dans la main avec toutes les parties prenantes. Il y a l'État, il y a les collectivités publiques, il y a les acteurs du privé. Et il y a plein d'actions de prévention à mettre en place. Et il y a d'ailleurs une organe qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui est vraiment là pour donner des conseils et accompagner les acteurs territoriaux. Donc, s'il y a des collectivités qui nous écoutent, qui ne sont pas encore dans cette démarche, je vous propose de vous rapprocher de cybermalveillance.gouv.fr qui est vraiment adapté pour vous accompagner, pour vous préparer à ces cybermenaces et à mettre en place des actions de prévention en amont. C'est comme ça qu'on sera meilleur le jour J si malheureusement une cyberattaque touche une collectivité.
Ah, merci beaucoup Madame la porte-parole de cette adresse précieuse, surtout que les collectivités effectivement constituent cette page très 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 importante. Revenons justement sur l'une de leurs préoccupations liées au grand rassemblement et au mouvement de foule. Mm-hmm. Comment les événements seront-ils sécurisés ? Quelle mobilisation attendue des forces de sécurité intérieure ?
Alors notre but, je vous le disais un petit peu en introduction, c'est vraiment que ce soit une grande fête, que tous ces JO soient une grande fête populaire, ouverte. Et donc il y aura des athlètes, leurs équipes, leurs entraîneurs, le staff, etc. Il y aura tous les spectateurs, il y aura tous les volontaires qui viennent en appui. Et donc c'est dans ce cadre-là que les forces de sécurité vont être coordonnées sous l'autorité des préfets de département pour chacun de ces événements. Donc, comme on le fait pour chaque événement, finalement, on va sectoriser chacun des événements, des matchs, des fêtes qui sont programmées. Et à chaque fois, il y aura des directeurs en charge de l'ordre public, en charge de la gestion de l'événement. Et au fur et à mesure des jours, on fera évoluer les dispositifs en tenant compte aussi des évaluations de la menace par les services de renseignement. Donc, il y aura deux attentions, j'allais dire, majeures sur le terrain. Il y aura la lutte contre la menace terroriste. On a toujours en tête que le niveau de menace dans notre pays est élevé. Les services de renseignement, d'ailleurs, au fur et à mesure, affineront les évaluations de la menace dans ce domaine. Et la gestion des mouvements de foule, donc dans une logique de canaliser ces mouvements pour pas qu'il y ait des marées humaines qui mettent en danger certains spectateurs. Donc tous ces dispositifs sont planifiés en amont et mis en place dans les jours qui précèdent et les jours des événements. Donc tout cela s'appuie bien sûr sur une expérience importante des forces de l'ordre, police et gendarmerie en matière d'organisation de grands événements avec voilà, ce facteur humain de l'expérience qui est important. Et puis tout sera adapté en fonction du contexte, comme je le disais, et l'évaluation des services de renseignement. On estime qu'il faudra environ 10 000 policiers et gendarmes chaque jour pour sécuriser les dispositifs et un peu plus, entre 17 et 20 000 agents de sécurité privée. Donc on voit bien aussi qu'il y aura une coordination importante entre la police et la gendarmerie nationale, les forces de sécurité privées et puis des unités de forces mobiles en nombre, les CRS, les escadrons de gendarmes mobiles qui seront présents. Donc ça c'est ce qu'on fait habituellement, mais là ce qui sera inhabituel c'est bien sûr l'ampleur de tout cela et la mobilisation jour après jour pour ces Jeux Olympiques.
Alors vous parliez de menaces terroristes, Récemment sont ouverts les procès, je dirais, des attentats de Nice. Quelle est actuellement la menace terroriste et comment faire face et s'adapter aux nouvelles typologies de menaces?
Alors, l'état de la menace terroriste est élevé, hein. On a beaucoup progressé ces dernières années. La menace principale aujourd'hui, comme on le dit, elle est endogène, c'est-à-dire que ce soit des personnes déjà présentes sur notre territoire qui puissent passer à l'acte. Donc, les services de renseignement intérieur, la Direction générale de la sécurité intérieure est vraiment à l'œuvre pour suivre toutes les personnes à risque qui pourraient passer à l'acte avec un usage de la violence. Alors, au quotidien, hein, ces services prouvent, on déjoue un certain nombre d'attentats. Je crois qu'on en a déjoué 6 l'année dernière, c'est beaucoup. Et on a mis, en prévision de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques, on a mis en place un centre de renseignement olympique, le CRO, dont je pense qu'on entendra souvent parler. Il a pour objet vraiment ce centre de renseignement olympique de rassembler les éléments des différents services de renseignement. Je vous parlais de la DGSI, mais au sein de la préfecture de police de Paris, il y a un service de renseignement, il y a le service central du renseignement territorial, les militaires aussi disposent de services de renseignement, la DGSE aussi. Donc l'idée, c'est autour de ce centre de renseignement olympique de rassembler vraiment tous les organes de renseignement et d'informer les autorités administratives, le gouvernement, pour permettre des prises de décision et de l'action qu'il fallait faire évoluer un certain nombre de choses. Donc ce centre est activé depuis le 1er mars 2021. Il est interministériel, comme je le disais, et fort de ce centre de renseignement olympique, on sera armé pour vraiment au quotidien évaluer la menace et réadapter les dispositifs. C'est vraiment ça, c'est de passer du renseignement, de l'analyse, ensuite à l'action et à l'évolution des dispositifs si le besoin s'en fait sentir.
Alors vous parliez justement, à côté du CRO, de tous les dispositifs effectivement publics, vous parliez de la sécurité privée. Alors la sécurité
oui,
privée, j'imagine...
C'est très important pour nous.
J'imagine qu'elle va être certainement très fortement mobilisée. Dans les actualités, on entend parler quelquefois de 22 000 agents de sécurité privée qu'il serait nécessaire de recruter. Or, vous l'avez dit, les JO arrivent et 22 000 agents à recruter, ça paraît assez effrayant. Tout ça dans un contexte Jeux Olympiques, Paralympiques, où nous avons tous à l'esprit Londres 2012, lorsque les Britanniques ont dû faire face à la défaillance de la société de sécurité privée G4S à 3 semaines d'ouverture des Jeux et donc recourir en urgence à l'armée. Qu'en est-il?
Alors oui, nous on s'y prend très tôt et on a tout à fait en tête ce qui s'est passé à Londres et le risque de pénurie en agents privés de sécurité est vif dans notre esprit. Donc c'est vrai que dès à présent, on cherche à éviter cela ou à minimiser au maximum ce risque et on a déjà pris un certain nombre d'actions. Alors la première, elle est un peu organique, j'allais dire, mais on a transformé et modernisé le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est le régulateur de la sécurité privée en France, le CNAPS. On l'a transformé en avril 2022 pour lui donner plus de compétences et pouvoir davantage agir. Notamment, il a pour mission d'accélérer les délais d'autorisation d'entrée dans le métier des agents privés de sécurité, parce que le défi devant nous, c'est effectivement ce recrutement. Alors, vous donnez le chiffre de 22 000 agents privés de sécurité par jour, c'est vraiment au maximum. On estime qu'on sera plutôt entre 17 000 et 18 000 chaque jour, même s'il y aura effectivement des pics à 22 000. Et finalement, cette filière, pour le moment, on voit qu'elle est encore précaire, elle est encore en construction. Beaucoup d'agents sont pas très bien payés ou sont en contrat très court, en fait des cours. Donc l'objectif du CNAPS, ça va être de stabiliser vraiment cette filière en travaillant aussi avec les syndicats, de mieux payer les agents, de féminiser aussi parce que ça participe à avoir une filière plus solide, à encore mieux former les agents privés de sécurité. Donc voilà, c'est le travail qu'on a devant nous pour adapter cette filière et qu'elle soit prête à l'été 2022. On veut vraiment faire la promotion de ces métiers et montrer qu'ils sont vraiment partie prenante dans la chaîne de sécurité. D'ailleurs, c'est les premiers pas de cela sont écrits dans le livre blanc de la sécurité, où on parle vraiment d'un continuum de sécurité. Mais pour nous, ces activités privées de sécurité sont vraiment importantes. Et c'est aussi pour ça que le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a beaucoup plus d'attention pour cette filière qu'il y a quelques années.
Pour terminer notre entretien, nos collègues de l'État et des collectivités territoriales y seront évidemment très sensibles. J'aimerais parler avec vous des liens entre les territoires au travers de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Je pense entre autres au parcours de la flamme olympique. Qu'en est-il?
Alors c'est vrai que dans cette dimension vraiment festive et populaire des JO, il va y avoir ce parcours de la flamme partout en France qui va précéder le vendredi 26 juillet 2024 et la cérémonie d'ouverture des Jeux. Alors cette flamme olympique, elle symbolise vraiment le début de la période olympique et elle va passer de département en département, région, collectivité des Outre-mer. Et cette flamme va vraiment jouer le rôle vraiment de symboliser le début des Jeux. Alors nous, au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, notre rôle, ça va être de la sécuriser, de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais et qu'elle passe de main en main par ces 12 000 kilomètres que va parcourir la flamme, 12 000 relayeurs aussi qui vont la prendre en main. Et donc là, vous l'avez dit, pour nous, cette dimension territoriale, elle est très importante et tout le monde va devoir travailler ensemble, police, gendarmerie, police municipale, différentes forces armées, le cas échéant, pour les segments marins. Et tout cela va vraiment permettre, quelles que soient les zones de compétences de chacun, de travailler ensemble pour donner cette résonance vraiment et cette appropriation nationale. Donc on sera présent tout au long de ce parcours de la flamme et dès les premiers mois finalement de l'année 2024. Et ça va être vraiment le début de ce grand moment. Et on a quelque part hâte d'être à ce moment-là pour l'avoir parcouru tout notre territoire et nos beaux départements et nos belles régions.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame la Porte-Parole. Je suis ravi de notre échange. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir à nouveau pour un interview d'ici les Jeux Olympiques, de façon à suivre l'avancée de vos travaux. J'espère.
On pourra parler ensemble de la sécurisation de la cérémonie d'ouverture aussi, parce que pour le moment, on n'a pas encore le projet artistique, mais on sait que ce sera aussi un grand moment, quelque chose de totalement inédit. Donc voilà, une fois de plus, on a hâte d'y être. Ça va être un grand et beau moment qui sera gravé dans nos mémoires pour très longtemps.
Merci beaucoup, Madame la Porte-Parole.
Avec plaisir. Je vous dis à bientôt.
À très bientôt. Quant à vous, chers auditeurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles émissions. Pour mémoire, vous pouvez écouter ou réécouter les podcasts sur le site radio.cnfpt.fr. Un grand merci à vous et à très bientôt.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.